trouvailles de la semaine pour ce vendredi dans le micro ouvert. C'est une archive sonore qui date de 71 et c'est un couple de hippies américains en voyage en Suisse qui donne un portrait piquant des Helvètes.
Oh, la Suisse, c'est charmant. C'est... Moi, j'adore les jardins. Alors, vous savez, les fleurs ici sont merveilleuses. Le montagne, c'est joli. Le paysage est joli.
Les gens, ses habitants.
Les gens sont très bourgeois, très propres, comme on dit. Ils marchent comme il faut. Et ils ne sourient pas beaucoup. Ils sont très fermés, je crois. Vous êtes le genre le plus propre du monde. Il n'y a jamais le, comment dit-on,
poussière.
La poussière sur un Suisse. Un Suisse, c'était toujours, chaque jour, il est poli, il est... J'aime ça. Moi, j'aime. Parce que c'est toujours bon, santé, regarder. Mais c'est trop propre. C'est trop parfait. C'est comme, ne me touche pas. Regarde, c'est comme l'herbe, mais on ne sait pas s'asseoir. Oui, c'est ça. Tout le monde dit que les Suisses sont comme des... poupée de bois, parfait. Comment je peux m'exprimer? Regarde, comme vous êtes
comme une horloge.
Oui, vous êtes comme un, ouais, comme une horloge, comme un, like a watch. C'est parfait, ça marche régulier, ça manque pas. C'est difficile à exprimer. On peut pas imaginer un Suisse qui dit ah, qui crie dans la rue, qui chante, qui joue. Nous crions toujours dans la rue, nous chantons, nous embrassons. Et les Suisses nous regardent comme ça. Les Grecs chantent avec, les Turcs rient avec, les Arabes dansent avec. Mais les Suisses regardent comme ça.
Micro ouvert.
Pas beaucoup de temps pour faire une petite intro, donc je me dépêche. Ça se passera en deux parties ce que vous allez entendre. Et c'est Gwenola Ricordo qui nous parle de l'abolition du système pénal, en fait. Je connaissais pas du tout cette dame, et c'est très, très intéressant. Et donc, cette dame ne se présente pas au début, elle se présente tout à la fin. Pourquoi pas, hein? Mais du coup, j'explique un peu qui est cette dame, quoi. Elle est sociologue, féministe et militante pour l'abolition du système pénal. Elle est docteure en sociologie, Université Paris 4 à la Sorbonne 2005. Elle a enseigné entre 2009 et 2017 à l'Université de Lille 1 comme maîtresse de conférence, avant de rejoindre la California State University Chico aux États-Unis, où elle a été professeure assistante, puis professeure associée en justice criminelle jusqu'à sa démission en 2025. Elle raconte d'ailleurs, pas longtemps, pourquoi elle a démissionné. Auteure de plusieurs livres, dont Pour elle toute, Femmes contre la prison, 2019. C'est un titre en entier, hein. Pour elle toute, Femmes contre la prison, 2019. Voilà, je vous laisse découvrir la suite et je vous dis, c'est en deux parties.
Attendre plus longtemps que ça, je pense que tout le monde est arrivé. Bienvenue à tout le monde. Vous savez que vous êtes là ce soir normalement avec Gwenola Ricordo et Philippe Hensmans. Malheureusement, Philippe a eu un accident. Et il a des côtes cassées, il va bien. Pensez à lui, mais ça va. Et donc, ce qui fait que le dispositif a été quelque peu changé en fonction de ça. On va travailler sur quatre axes ce soir. Donc, vous savez que vous êtes venu à une soirée de l'Observatoire international des prisons, que l'Observatoire est une ancienne ASBL qui fonctionne depuis au moins 25 ans. Et qui a fait le choix depuis 2019 à peu près, je regarde Juliette pour pas me tromper, depuis 2019 de travailler, en tout cas d'œuvrer pour l'abolitionnisme pénal. Donc on va travailler sur quatre axes. Un premier axe qui sera de pouvoir présenter quels sont quel est l'horizon, quels sont les objectifs, quels sont les espoirs qu'a l'abolitionnisme pénal en termes de société. C'est le premier axe. Le deuxième axe sera un peu d'entrer un peu plus loin, c'est de dire, tiens, comment ça se fait que l'abolitionnisme pénal est arrivé dans l'horizon, encore une fois, je trouve le premier mot, pour pouvoir dire, tiens, nous devons proposer quelque chose d'alternatif à la répression, à la punition, à tous ces sont là pour le dire. Puis de pouvoir vous présenter quels sont les différents courants de l'abolisme, de l'abolitionnisme pénal, pour enfin terminer en une sorte de boucle en disant mais il y a différents courants et ces différents courants ont différentes couleurs. Et comment est-ce que ces couleurs pourraient venir s'incarner dans le projet de société ? Ça, c'est un peu le modèle qu'on vous propose pour ce soir. Que dire ? Des merci. Merci à Christina. J'ai brûlé, tant pis. Merci à mon fils, qui est là-bas. Merci à tous mes camarades de l'OIP. Et je vais allumer une bougie, je ne vais vraiment pas faire long. Moi, j'ai commencé la lutte avec Amnesty International. Pardon. Donc, j'ai commencé la lutte avec Amnesty International. Donc, vous savez que la campagne des bougies d'Amnesty commence tout bientôt, en tout cas très certainement au 10 novembre. Peter Benson, qui est le fondateur d'Amnesty International, avait l'habitude de dire « Il vaut mieux allumer une bougie que de... » Oh, mon Dieu... « De maudire l'obscurité. Merci beaucoup. » Voilà. Et donc c'est aussi, pour moi aussi, une pensée pour... Bon, à tous ceux qui nous ont précédés dans la lutte, et une pensée toute particulière pour eux. Voilà. En tout cas, pour Christophe. On y va.
Merci, Serge. Alors, moi, c'est Delphine, je suis membre de l'OIP depuis quelques années. C'est moi qui aurai l'occasion de poser les quelques questions en compagnie de Serge. Et puis après, on aura un temps, évidemment, de discussion avec la salle. Donc on va avoir une première discussion pendant plus ou moins une heure. Et puis ensuite, on aura encore une demi-heure d'échange avec vous. Donc Serge vous a présenté les quatre axes. On va commencer donc par la finalité du projet, puis on reviendra un peu plus sur le contexte, même si les deux risquent de s'entremêler un petit peu. Donc Gwenola, est-ce que tu pourrais nous présenter le projet de société assez général de l'abolitionnisme, ses espoirs, son projet politique ?
Alors, bonsoir tout le monde, merci pour cette invitation, pour cette discussion ambitieuse. Avec ces quatre axes, je vais essayer de répondre dans l'ordre, même si, comme tu l'as dit, des fois les réponses risquent de se chevaucher. La première question, elle pose déjà la question de qu'est-ce qu'on entend par abolitionnisme. Et en fait, mais on aura l'occasion d'y revenir, on n'est pas tous et toutes d'accord sur ce que l'on met derrière ce terme d'abolitionnisme. Il y a des abolitionnistes, et dans l'histoire de l'abolitionnisme, on a d'abord commencé par là, de penser l'abolition de la prison. L'abolition de la prison, qui en même temps est très proche des courants abolitionnistes de la punition. Mais évidemment, ce n'est pas exactement la même chose lorsque le projet est d'abolir la prison, cette institution, ou alors d'abolir le principe même de la punition, la punition pouvant aussi être au sein des familles, à l'école, là c'est la question de la peine de prison, mais du coup lorsqu'on est du côté de l'abolition de la punition, la peine de prison est une parmi des multiples punitions, et donc il y a déjà là un désaccord sur la définition même de ce qu'on peut entendre par projet abolitionniste. Et puis il y a l'abolitionnisme pénal, qui au sens propre est l'abolition des institutions pénales. Et donc là, pour dire les choses rapidement, on désigne les principales institutions du système pénal, la prison, mais aussi la police, et puis évidemment les tribunaux. Et donc là, c'est l'abolition du recours au système pénal, Donc c'est aussi la question de la professionnalisation, le fait qu'il y ait des personnes chargées de la sécurité des autres ou personnes chargées de la protection des autres. Et donc répondre à cette question, c'est quoi le projet abolitionniste ? Vous voyez, ça pose déjà la question de finalement, qu'est-ce qu'on entend par abolitionnisme ? Et je vous ai dit, on peut dire qu'au début de l'histoire de l'abolitionnisme, il y avait vraiment cette focalisation sur la question de la prison. Et par exemple, la question de la police est beaucoup plus récente. On peut dire que ça date plutôt de, autour des années 2010, que ça a été d'abord beaucoup aux États-Unis, porter cette question de l'abolition de la police. Vous avez sans doute entendu parler de, des mobilisations qu'il y a eu dans le sillage du meurtre de George Floyd, hein, donc en 2020, avec ce slogan sur lequel on reviendra sans doute, hein, de définancement de la police, mais aussi d'abolir la police. Et donc finalement, c'était, ça a été pour les abolitionnistes quelque chose, une nouvelle perspective, une nouvelle problématique, ce qui a aussi reposé la question des stratégies abolitionnistes. Je sais qu'on aura cette question un petit peu plus tard. Mais on peut dire donc que les abolitionnistes sont réunis par ce projet d'en finir avec certaines institutions. Et par contre, il y a des désaccords sur la façon dont on pourrait y arriver. Alors, abolir, c'est un terme qui a évidemment une histoire politique extrêmement forte. Ça fait évidemment référence à l'abolition de l'esclavage. Puisque, pour, notamment dans le contexte états-unien, on dit et redit qu'il y a une continuité historique entre le système esclavagiste, le système plantationnaire et aujourd'hui l'institution prison, mais aussi l'institution pénale. Mais en fait, ce terme d'abolition, il pose problème. En fait, est-ce qu'il s'agit de démanteler la prison et ou la police? Et finalement, le démantèlement, c'est quelque chose qui peut être un processus graduel, un processus qui s'inscrit dans un temps long. Est-ce qu'on parle de destruction et donc d'une approche plus confrontationnelle? Est-ce qu'on parle de faire disparaître? Est-ce qu'on parle d'abandonner ces institutions? Et donc vous voyez que là, ça ouvre déjà beaucoup de questions autour des stratégies. Je ne sais pas si c'est trop long ou trop court.
C'est une bonne introduction. Est-ce que tu pourrais nous parler des backgrounds, de ces liens avec les luttes notamment antiracistes, féministes, décoloniales? C'est un projet qui s'est construit un petit peu en héritage de ces différentes luttes.
Alors, je pense que c'est important, pour répondre à cette question, d'avoir une perspective historique sur ce qu'on entend par abolitionnisme. Et je l'ai évoqué très rapidement tout à l'heure en évoquant le fait qu'il y avait un début de l'histoire de l'abolitionnisme. Mais pour dire les choses plus clairement, c'est au tournant des années 70, à la fois en Amérique du Nord et en Europe, que des personnes et des mouvements utilisent l'étiquette abolitionnisme et se revendiquent comme abolitionnistes. Quand on dit cela, on dit aussi qu'il y a eu des gens et des organisations politiques pour œuvrer à l'abolitionnisme sans même avoir cette étiquette-là. Hein, et on peut prendre l'image du féminisme. Hein. Il y a eu des féministes avant même que le terme de féministe soit utilisé. Et donc, si on regarde dans un temps long, on peut dire que l'abolitionnisme a ses racines, notamment, évidemment, chez les anarchistes, hein, qui ont toujours dit leur opposition viscérale à l'institution pénale, à la police, à la prison. On peut aussi voir, évidemment, des racines à l'abolitionnisme dans le mouvement radical africain-américain, notamment dans les Black Panthers. Hein. Les Black Panthers, lorsqu'elles disent « la police est une force d'occupation du ghetto noir hein, », c'est dans ces termes-là que les Panthers s'expriment, elles disent des choses qu'on va retrouver hein, chez les abolitionnistes. Alors, à commencer par le fait qu'il n'y a pas de différence de nature entre l'armée et la police, chose qui est extrêmement importante parce qu'il y a beaucoup de critiques réformistes aujourd'hui pour critiquer la militarisation de la police, hein, comme si c'était acceptable de traiter des populations étrangères d'une certaine façon, mais que ça devenait inacceptable lorsqu'on traitait les citoyens de son pays de cette même manière. Est-ce que c'est clair ou c'est trop... Et donc, les Panthers disent « la police est une force d'occupation du ghetto noir, la police est raciste hein, et la police s'inscrit dans le racisme systémique, la police fait partie du problème ». Les Panthers développe aussi la pratique de l'observation et de la surveillance de la police. Hein, c'est vraiment l'image des, enfin, la mise en pratique par les Panthers de l'observation de la police. C'est évidemment les origines de ce qu'on va connaître aujourd'hui sous le terme de cop-watching, hein, des pratiques d'observation de la police. Donc il y a ces racines qui sont anciennes, qui sont parfois un petit peu oubliées, mais ça c'est une petite parenthèse. Et donc on a ce moment des années 70 où, encore une fois, des deux côtés de l'Atlantique, des personnes, des groupes se revendiquent comme abolitionnistes, et donc à l'époque sont extrêmement focalisés sur la question de la prison, pour diverses raisons, mais surtout parce que ces personnes viennent essentiellement de mouvements réformistes de la prison, c'est-à-dire que c'est des personnes qui ont œuvré pour réformer les prisons, les améliorer, hein, dans ce temps long de l'après-Seconde Guerre mondiale, et que ces personnes et ces mouvements arrivent en fait au bout de leur militantisme et de leur engagement, et se disent « mais finalement, cette institution, elle n'est pas réformable, il faut en finir, c'est la seule solution raisonnable, c'est d'abolir la prison ». Et donc ces mouvements-là sont aussi très proches de la critique de toutes les formes d'enfermement, ils sont aussi très proches de la critique de l'hôpital psychiatrique, des mouvements de patients dans différents pays. C'est ce que, avec des collègues, on a appelé la première vague de l'abolitionnisme, hein, de la même manière que, si vous êtes familier du féminisme, on parle de vague. Alors ça a toujours des avantages, hein, ça permet un petit peu de comprendre les évolutions historiques, ça a aussi des limites, hein, lorsque on parle de cette manière-là. Mais en tout cas, on distingue dans notre perspective cette première vague, donc très orientée autour de la question de la prison, et puis une seconde vague à partir des années 2000 et essentiellement aux États-Unis, qui, elle, va vraiment s'emparer de la question du racisme. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là qu'on voit les analyses se développer sur la continuité entre la prison et le système plantationnaire, le système esclavagiste. On doit beaucoup pour cette vague-là, évidemment, à Angela Davis, mais aussi à beaucoup d'autres militantes et théoriciennes africaines-américaines. C'est le moment de création d'un grand mouvement abolitionniste états-unien qui est encore actif aujourd'hui, qui s'appelle Critical Resistance. Donc c'est vraiment le moment où, en tout cas en Amérique du Nord, on ne peut pas penser l'abolition de la prison sans penser le racisme systémique, mais qu'aussi on ne peut pas penser le racisme systémique sans penser l'institution prison et la manière dont la prison fait partie en fait du racisme systémique. À notre sens, il y a une troisième vague beaucoup plus récente qui est à la fois autour de la question de la police et qui dit aussi plus clairement que le féminisme se doit aussi d'être abolitionniste et qui fait donc une critique des courants féministes punitivistes ou des courants féministes qui s'appuient sur le système pénal. Et donc c'est une critique à la fois des politiques pénales qui instrumentalisent la question des violences faites aux femmes, mais qui dit aussi qu'il est possible de construire des alternatives au système pénal. Et c'est ce qu'on va entendre dans des tentatives de faire autrement. Hein, et vous avez sans doute entendu parler de justice transformatrice. On aura sans doute l'occasion d'y revenir. Mais du coup, il faut comprendre, hein, que l'abolitionnisme, c'est pas quelque chose de monolithique. C'est traversé par des courants, c'est traversé par des débats. Et puis il y a des évolutions politiques qui sont liées à la fois à l'évolution des idées, à l'évolution des débats. C'est rassurant qu'on ne pense pas les choses exactement de la même façon aujourd'hui qu'on les pensait dans les années 70. Et puis l'abolitionnisme, il est aussi lié à des histoires nationales. Hein. Autant c'est une évidence aux États-Unis que de penser la prison et le système esclavagiste, au Royaume-Uni de penser la prison et la colonialité, c'est beaucoup plus difficile de penser ça en France. Alors évidemment on le pense, mais quand on regarde les productions par exemple abolitionnistes dans les années 70, les années 80, c'est quelque chose qui est complètement invisibles ou impensées. Je m'arrête là.
Bien, on passe à la suite. Alors. Donc la suite, c'est comme je vous l'avais annoncé au début, c'est quels sont les différents courants abolitionnistes et qui orientent actuellement la pensée, qui sont, on va dire, les plus prégnants.
Peut-être du coup pour ancrer ça aussi, c'est... Donc, dans ces courants, tu nous as parlé de ces différentes vagues. À partir de quel moment, tu l'as un petit peu glissé, mais à partir de quel moment ça s'est révélé insuffisant, finalement, de s'ancrer vraiment sur juste l'abolition de la prison, et c'est devenu une évidence ou une nécessité de pouvoir inclure la justice pénale et la police, sachant que l'abolitionnisme carcéral était déjà vu comme une proposition assez radicale.
Alors peut-être que je vais devoir te faire répéter ta question, Serge, plus tard, une fois que j'aurai déjà répondu à cette question.
C'est ensemble pour moi.
Ce qu'il faut quand même avoir à l'esprit pour essayer de répondre à cette question, c'est que la prison, mais le système pénal... Ce sont aussi des institutions qui répondent aux critiques qui leur sont faites, qui répondent en s'y adaptant, et puis qui s'adaptent aussi à l'évolution des mœurs, des sensibilités. Et on l'a vu, alors en Belgique comme dans d'autres pays, hein, qu'il y a eu différentes réformes, différentes propositions. Alors il y a des expressions diverses qui peuvent exister selon les pays. Mais j'imagine que l'expression de peine alternative, elle ne doit pas être totalement étrangère à vos oreilles. Alors, en France, ça a été le développement du travail d'intérêt général. Et puis, dans d'autres pays, il y a des peines de probation. Vous avez de la probation depuis plus longtemps qu'il y en a en France. Donc, vous êtes sans doute beaucoup plus familier et familière que ça, que le public en général en France. Je pense que le fait que le système pénal se renouvelle aussi dans sa manière de punir a obligé les abolitionnistes à penser au-delà de la prison. Alors moi, j'ai souvent une boutade, désolée pour celles et ceux qui m'auraient déjà entendu faire cette boutade, mais je pense que la prison va être abolie par d'autres que les abolitionnistes, parce qu'à un moment donné, la prison ne va plus être rentable et même va sans doute choquer nos valeurs morales. Et qu'à un moment donné, il y aura bien d'autres manières de punir, de surveiller, de contrôler que la prison qui deviendra obsolète, pour reprendre les termes d'Angela Davis. Et du coup, j'ai oublié dans ces peines alternatives quand même une grande évolution qui a été le bracelet électronique. La surveillance électronique, je ne sais plus comment vous dites PSE ici, placement sous surveillance électronique. Et donc ces types de dispositifs, mais... On est au début de tout ça. Il y a évidemment, ils sont très imaginatifs de l'autre côté. Et donc, si on prend au sérieux le fait que les dispositifs de surveillance, de contrôle se multiplient, peuvent prendre des formes beaucoup plus acceptables socialement, il faut plus penser le seul enfermement et la seule prison, mais bien en fait toutes les formes de pénalité, toutes les formes de punition. Donc, à mon sens, c'est vers les années 90-2000 qu'on a sans doute un petit peu... On s'est un peu éloigné de cette focalisation sur la seule prison. Après, il y a des histoires nationales aussi qui font qu'il y a des différences aussi. Qui porte les mouvements abolitionnistes ? Il y a eu tout aussi la tradition française a d'abord été beaucoup des mouvements d'anciens prisonniers ou de personnes proches, des personnes criminalisées. Aux États-Unis, il y a eu beaucoup de gens qui venaient beaucoup plus des mouvements contre les violences policières, contre les homicides policiers. Donc je pense que ça forge aussi la façon dont on conçoit les choses. Ta question était sur les courants.
Exactement.
Oui, sur les courants. Alors, il y a toujours un risque, quand on décrit différents courants, de figer un petit peu les choses, alors que dans la réalité, Les choses sont souvent plus complexes. Parfois même les gens ne se reconnaissent pas vraiment dans un courant et voilà où vont naviguer d'un courant à un autre. Mais pour expliquer et simplifier un petit peu la façon dont on peut penser les courants de l'abolitionnisme. Et encore une fois, peut-être que certaines personnes, certaines personnes ont déjà entendu expliquer cela. Mais j'ai recours à trois images qui viennent de toute l'iconographie, la propagande abolitionniste. Ces trois images sont celles de la voiture de police qui est en feu, la voiture de police qui est à l'abandon et recouverte par des plantes. Puis la troisième image est une image beaucoup plus rare, mais qui existe, qui est l'image de la voiture de police qui est en train d'être démontée par des personnes. Et ces trois images expliquent trois stratégies abolitionnistes que je vais vous dire, que je vais vous décrire très brièvement. L'image de la voiture de police qui est en feu, c'est la stratégie de la confrontation, de l'action directe, de la désignation de la police comme un ennemi auquel il faut se confronter. C'est une stratégie qu'on voit plus ou moins développée selon les pays. On peut dire qu'en France, c'est un courant extrêmement fort de l'abolitionnisme. Il y a certains courants qui sont beaucoup moins représentés en France. Aux États-Unis, c'est vraiment quand même très, très niche, cette approche-là. L'approche que l'on peut mettre en image avec cette voiture de police à l'abandon recouverte par des plantes, c'est derrière cette image, c'est la stratégie donc de l'abandon, on abandonne l'État, on abandonne l'institution pénale, le recours à la police, et on crée des espaces qui sont libérés, des espaces d'émancipation, et donc on crée des alternatives. Alors c'est notamment les pratiques de justice transformatrice, d'espaces dans lesquels on règle ses problèmes autrement. Alors, les expressions peuvent être diverses. Il peut y avoir des gens qui parlent de justice communautaire ou juste des gens qui font autrement ou qui font sans. Cette approche-là, elle est donc évidemment pas unique pour les mouvements abolitionnistes. On va les retrouver dans plein d'autres espaces politiques. Ça va être les ZAD, ça va être toutes les formes d'expérimentation. Et évidemment, ça appelle un certain nombre de critiques. Peut-on décréter qu'un espace est libéré ? Peut-on décréter que ce soir, nous sommes un espace safe, qu'on crée un espace sans sexisme, sans racisme ? Pour ma part, je ne crois pas. Je ne suis pas en train de dire que vous êtes raciste ou sexiste. Je crois qu'on est traversé par des rapports de domination, qu'il est extrêmement difficile de déconstruire. Mais en tout cas, on peut essayer d'expérimenter d'autres rapports sociaux. Après, est-ce qu'il suffit de les décréter et de les faire durer dans le temps pour abattre l'ensemble du capitalisme ? Personnellement, je ne crois pas. J'ai une image, peut-être que vous contesterez si vous me le direz, mais c'est l'image du potager bio. C'est super de faire un potager bio, je ne critique pas les gens qui font des potagers bio. Est-ce que c'est ça qui va nous sauver de l'extractivisme ? Est-ce que c'est ça qui va nous sauver de la destruction de la planète ? Je ne pense pas. En même temps, est-ce que ça vaut le temps de se fatiguer à critiquer les gens qui font des jardins bio ? Je ne pense pas non plus. Bon, vous voyez, ce genre de débats, encore une fois, qui ne sont pas limités aux espaces abolitionnistes, c'est des débats qu'on peut avoir dans beaucoup d'autres sphères d'engagement politique. Et évidemment, ce courant-là est plutôt en vogue depuis une dizaine d'années. Et je pense que c'est en vogue à la fois en Amérique du Nord et puis en France. Et puis je pense aussi Belgique, Suisse, etc. De ce que j'en sais, il y a pas mal d'appétence pour ce genre d'approche, pour faire autrement, pour faire sans. On pourrait revenir sur la terminologie. Et puis il y a un troisième courant, c'est l'image donc de la voiture de police qu'on démonte. Et c'est marrant parce que il y a assez peu de représentations de cette voie-là, de cette stratégie-là. Pourtant, c'est la stratégie mainstream, on pourrait dire, des abolitionnistes, qu'on retrouve dès les premières formulations abolitionnistes dans les années 70, avec diverses expressions telles que la guerre d'usure. C'est formalisé parfois en trois phases, alors qu'ils sont « disant power », donc en anglais « enlever du pouvoir ». Deuxièmement, et voilà, c'est le trou, là, « disant power ». La fin, c'est « disband ». Je suis désolée, il n'y a personne qui se souvient de la deuxième phase. Bon, ça me reviendra peut-être plus tard. Bon, mais vous voyez, c'est l'idée de retirer du pouvoir à l'institution, c'est l'idée de l'affaiblir, qu'il en reste rien. De la même façon, donc vous voyez, si vous visualisez la voiture de police, on lui enlève des roues, on lui enlève des rétroviseurs. Bon, peut-être que vous réussissez à conduire encore avec trois roues. Bon, j'ai jamais essayé. Sans le rétroviseur, vous pouvez continuer à avancer, sans les phares non plus. Bon, on vous enlève le volant, là, ça devient quand même très compliqué. Et voilà. Alors, ça pose quand même un très gros problème d'un point de vue d'efficacité de cette stratégie. C'est qu'en fait, la roue que vous avez enlevée à la voiture de police, bah, vous allez peut-être la mettre à l'institution scolaire. Rien contre les profs, hein, j'ai moi-même longtemps été enseignante, mais on sait très bien que l'institution scolaire, elle n'est évidemment pas étrangère à des formes de discipline, je ne sais pas si on le dit, oui voilà, en français, disciplinarisation, de contrôle, de surveillance, mais aussi de criminalisation de la jeunesse. Alors, donc la roue, on peut aussi la mettre à l'institution psychiatrique, là encore, hein, rien contre les psychiatres, mais on sait bien le rôle que peut jouer la psychiatrie ou le complexe, comment on dit en anglais, le complexe médico-psychiatrique, quelque chose comme ça. Évidemment, hein, tout ce qui est le secteur de l'éducation, hein, des éducateurs de rue, etc. Et donc, c'est l'effet des vases communicants. Hein, vous enlevez à l'un quelque chose que vous finissez par donner à l'autre. On peut, et on l'a vu hein, dans l'après 2020 aux États-Unis, le fait qu'on envoie moins de policiers sur intervenir auprès de personnes en état de crise, mais on en voit en fait parfois même des bénévoles qui finalement vont faire un travail policier. Hein, et donc, est-ce que finalement ça vaut le coup d'affaiblir cette institution si finalement elle se réinvente ou que d'autres viennent faire son travail ? Vous me suivez ou vous vous dites que j'ai complètement...
Non, non. Okay.
Donc il y a ces trois courants-là. Et encore une fois, hein, les choses ne sont pas figées. On peut à un moment donné, tactiquement, se dire qu'il y a une carte à jouer. Hein, ça vaut le coup d'affaiblir l'institution parce que si on veut la réduire en cendres, c'est plus facile de réduire en cendres un ennemi qui est déjà un petit peu abattu. Et puis ça vaut le coup aussi d'expérimenter à côté, parce que pour donner envie, pour reconstruire un projet politique, d'avoir des formes d'expérimentation qui peuvent aussi être nécessaires à la survie, ça fait partie du projet politique, hein, d'avoir des formes de préfiguration, comme on dit, hein, de pas se dire que ce sera exactement comme ça, mais de pouvoir au moins rêver. Hein, c'est la même question avec l'argent. Hein, c'est difficile aujourd'hui d'imaginer un monde sans argent ou d'un monde sans le capitalisme, mais on a quand même à la fois besoin d'espace dans lequel on échappe un peu au rapport capitaliste, en même temps en sachant les limites, et en même temps c'est nécessaire et ça permet de nourrir le projet politique.
Good. Tu parlais de stratégie et de la nécessité de pouvoir mettre ensemble, articuler ces différents courants de l'abolitionnisme qui sont donc la démolition, l'abandon, le démantèlement. À côté de ça, on a aussi toute une série de groupes, de mouvements qui articulent une pensée critique autour de la prison, mais qui vont plus être dans un réformisme de la prison. Est-ce que ces mouvements sont dissociés en opposition ou est-ce qu'il y a un intérêt aussi à pouvoir s'appuyer sur les mouvements réformistes et soutenir aussi leurs revendications ?
C'est une question piège parce que... de mon point de vue, de là où je me situe politiquement, Évidemment que je pousse à l'abolitionnisme, et ce qui m'intéresse, c'est l'avancée des idées abolitionnistes. Et je trouve ça... Il y a beaucoup de débats sur, finalement, c'est quoi le réformisme, etc. Et parfois, je doute que ce soit vraiment intéressant de toujours vouloir distinguer réformisme et abolitionnisme. Surtout que y a, ce qui est un petit peu piégé, enfin, alors c'est pas ta question, ni personnellement ou vous en groupe, hein, dans votre question qui est en cause, mais il y a des abolitionnistes qui prônent dans leur stratégie l'usage de la réforme. Et donc il faut faire attention à qu'est-ce qu'on appelle réformisme. Est-ce que c'est d'avoir un usage tactique de la réforme, ou c'est d'être dans l'illusion qu'on pourrait avoir de bonnes prisons ou une bonne police? Et c'est quand même totalement différent. Est-ce que vous me suivez ou je... D'accord.
Est-ce que ça peut être envisagé comme la réforme, comme un premier temps vers l'abolitionnisme, par exemple?
Ah oui, alors c'est ce que pensent ceux qui démontent la voiture de police. Ils pensent qu'on va arriver à l'abolition de cette manière-là. Moi, j'y crois pas. J'y crois pas, mais en même temps, je vais pas perdre mon temps à les empêcher de démonter, parce que encore une fois, je pense que c'est déjà c'est aussi nécessaire à l'avancée des idées abolitionnistes. Et je pense qu'on ne peut pas se contenter de ça, parce que encore une fois, hein, l'institution répond aux critiques qui lui sont faites, elle se réinvente, elle peut aussi avoir des intérêts à déléguer certaines de ses fonctions à d'autres institutions. Et c'est vraiment ce qu'on a vécu dans l'après 2020 aux États-Unis, c'est-à-dire que on a eu après les mobilisations, les émeutes, un certain nombre de départements de police qui ont réduit leur...
Non, je veux dire, qui ont lieu ici aussi.
Oui, oui, j'imagine bien, hein. Des approches qui peuvent apparaître progressistes, mais qui finalement éloignent l'horizon abolitionniste. Et c'est pour ça que je pense que les trois approches sont nécessaires. Je ne sais pas si c'est plus clair comme ça.
Okay. On va continuer alors. Oui. Donc là, le quatrième axe, finalement, d'hier. Tu peux, avant vos questions-réponses à la salle, porte en fait, donc on a ces différents courants que Gwenola vous a exposés. Destruction, démantèlement, abandon. On a entendu que, ben, au mieux, les trois courants doivent pouvoir vivre les uns à côté des autres, même si on a des préférences, ou en tout cas que si on a un projet politique, on peut se dire que certaines stratégies ne vont pas arrêter les choses, elles vont juste déplacer les choses ailleurs. On sait par ailleurs que déjà actuellement, ce qu'on fait avec nos mômes dans les écoles. Donc, ce quatrième axe porte comme titre « Comment ces courants pourraient-ils s'incarner pour atteindre le projet de société dont on parlait tout à l'heure ?»
Bon. Je te passe.
Non, je pensais que tu allais m'interroger sur le... Sur l'extrême droite.
Ah,
c'est réservé pour après.
C'est après.
Ok, d'accord. Désolée, c'est un peu télescopé. Préparer les questions. Moi, j'écris pas des programmes politiques. C'est pas mon travail dans la vie de faire ça. Mais c'est une conversation qu'on avait juste avant la rencontre. Il y a quelque chose qui me semble extrêmement important dans le contexte actuel. S'il fallait avoir des revendications, si c'est obligé d'en passer par là, je pense qu'il est très important de parler de la légalisation de tous les produits. Je pense qu'il y a un vrai enjeu politique. Je suis assez pessimiste actuellement sur la situation politique, que ce soit en Europe ou évidemment aux États-Unis. Je pense qu'on est vraiment dans un moment de recul, un moment extrêmement réactionnaire, où c'est très difficile de faire entendre nos idées. On est quand même plutôt à la défense, enfin sur la défensive, hein. On n'est pas dans un moment de conquête politiquement. Peut-être que je suis très marquée par ce qui s'est passé aux États-Unis, puisque, pour la petite histoire, je vivais aux États-Unis jusqu'à quelques mois. Et j'ai vécu 2020, et le fait que ça faisait quand même déjà pas mal d'années que j'étais abolitionniste. Et c'était la première fois de ma vie que je voyais l'abolitionnisme être débattu, y compris dans des médias mainstream. Il y avait quelque chose d'extrêmement enthousiasmant, et puis de voir aussi toute une génération de jeunes gens se revendiquer abolitionnistes. Donc ça a créé quand même beaucoup, beaucoup d'espoir aux États-Unis, un moment où on s'est dit qu'on avançait, en fait. Hein. Il faut vraiment mesurer ça, hein, ce moment pour les abolitionnistes, qui était quelque chose d'inespéré qu'on avait jamais vécu, avec beaucoup d'effervescence aussi intellectuelle. Il y a eu un nombre incalculable de livres, hein, mais vraiment des dizaines de livres qui ont été publiés sur l'abolitionnisme, un nombre incroyable de conférences. Donc à la fois des mouvements à la base, hein, grassroots, comme disent les Américains, et puis un mouvement intellectuel. Et le bilan, il est extrêmement négatif. Et c'est pas simplement que Trump est revenu au pouvoir, mais on a vu en fait que les stratégies qui ont été mises en place, qui étaient vraiment les stratégies abolitionnistes, donc de la troisième sorte, hein, de démanteler les institutions pénales, finalement, non seulement ça n'a pas fonctionné à long terme, mais même au contraire, en fait, ça a renforcé l'institution policière, qui est plus forte que jamais. On est passé à même à des... Enfin, vous avez sans doute entendu l'envoi de forces fédérales dans un certain nombre de villes, etc. Et donc, le bilan, il est extrêmement dur. Il faut qu'on avance, c'est ça ?
Non.
Ah, pardon, j'ai cru qu'il y avait un message de ce sens-là. Je suis très pessimiste sur ce genre de stratégie. C'est aussi un moment où il y a eu des stratégies... Alors, vous savez peut-être qu'aux États-Unis, on peut, dans beaucoup d'endroits, élire des procureurs. Les procureurs sont élus par la population. Et il y a eu des procureurs progressistes. Je pense qu'il faut mettre beaucoup, beaucoup de guillemets partout. Et des procureurs qui se proclamaient pour la décarcéralisation, etc., qui ont été élus. Et en fait, tout ça est maintenant, à la fois paraît bien loin, et on voit qu'il y a plus même un renforcement des croyances punitivistes, pro-pénales aujourd'hui. Donc je suis sans doute très affectée par ce sentiment d'échec collectif qu'il y a aux États-Unis. Alors c'est peut-être très, très personnel et très conjoncturel, mais j'ai du mal à voir de quelle manière aujourd'hui on peut être dans autre chose que de la défensive, même si, encore une fois, peut-être que je me répète ou je retourne un petit peu en arrière, hein, mais je pense que la question des produits stupéfiants, des politiques de la drogue, elle est essentielle. Et que est aussi essentiel de soutenir les prisonniers avec vraiment... Enfin, c'est quelque chose que j'entends beaucoup en France, et peut-être qu'en Belgique, il y a aussi cette déformation-là. C'est qu'on voit souvent beaucoup de mythification ou de fétichisation des mouvements qu'il y a eu dans les années 70 ou début des années 80, et cette idée qu'aujourd'hui, ce serait différent... qu'aujourd'hui, les prisonniers, ils ont changé. Aujourd'hui, les prisonniers, ils sont beaucoup plus individualistes. Or, c'est des discours aussi, hein, qui sont repris par les prisonniers. Avant, c'était différent. Les prisonniers, ils étaient beaucoup plus solidaires, etc. Et je pense qu'il faut faire très attention de ne pas être victime de ce discours-là. En fait, la prison est une institution qui est faite pour... qui est individualiste, qui nous fait croire qu'on est seul ou qu'on est seul contre les autres. Et c'est à nous, politiquement, de créer, en fait, les solidarités. Là encore, je ne sais pas si je parle pour... Vous me suivez ?
Oui.
À peu près.
Alors. Désolée, je n'avais pas de programme.
C'est très bien. Pour rentrer un peu plus dans du concret, parce qu'on a, beaucoup parlé de, d'un horizon qui peut sembler très, très théorique. Et or, pour la majorité de la population, parler d'abolition, ça va être assez effrayant, parce que dans l'imaginaire collectif, la prison, la justice et la police sont toutes les trois des institutions qui protègent ou qui sont censées nous protéger. Or, la prison, elle met hors d'état de nuire les personnes les plus dangereuses. Elle va dissuader en montrant l'exemple à ne pas suivre. Évidemment, je ne parle pas en mon nom, hein, mais dans l'imaginaire collectif. La justice rappelle les règles de vie en société. Elle va sanctionner les gens qui les violent. La police, elle contrôle le respect de ces règles et elle intervient en cas de problème, de danger imminent, etc. Dans l'abolitionnisme, finalement, on supprime toutes ces protections. Et donc, en quoi d'autres formes de justice, qu'est-ce qui pourrait exister comme alternative ? En quoi elle pourrait être plus efficace que la prison ? Et comment, du coup, pouvoir expliquer ça à des personnes qui vont être particulièrement exposées à toute une série de violences? On peut penser notamment aux femmes. Vous avez beaucoup travaillé sur les liens entre le féminisme et l'abolitionnisme dans votre ouvrage « Pour elles toutes ».« Pour elles toutes, femmes contre la prison », on va dire le titre en entier, évidemment. Et donc, toutes ces personnes-là qui peuvent être tentées aussi d'adhérer à des discours sécuritaires, comment pouvoir répondre aux besoins de sécurité de toutes ces personnes?
Alors, en fait, à votre question, je pense qu'il faut d'abord répondre par une série de questions. En fait, qui est protégé par le système pénal? Qui est protégé par la police? Et qui est protégé de quoi, en fait? Est-ce que la police, est-ce que le système pénal nous protège des crimes du capitalisme? Le capitalisme, tous les jours, brise des vies. Tous les jours, en fait, la planète est détruite. La police nous protège pas de l'extractivisme. La prison ne nous protège pas de tout ce qu'on appelle les crimes verts. Je sais pas si c'est une expression que vous utilisez ici. Les crimes environnementaux, les écocides, etc. Et donc, qu'est-ce que le système pénal protège? Le système pénal protège le capitalisme, il protège le patriarcat. Qui se sent protégé? Vous évoquez les victimes de violences sexuelles, mais en fait, aujourd'hui, le système pénal protège très très peu et très très mal. Moi, je suis toujours scandalisée à l'idée de l'étendue des crimes du patriarcat. Hein, on parle quand même il s'agit de crimes de masse. Il s'agit de crimes qui font en fait, on parle de centaines de milliers de victimes, en tout cas dans le contexte français, dans les chiffres français, avec des centaines de milliers d'auteurs aussi. Et donc, comment peut-on même dire, en fait, que la police nous protège? Non, la police, elle ne nous protège pas. Et ce qui est d'autant plus scandaleux, c'est que on nous dit qu'il faut toujours beaucoup, qu'il faut encore plus porter plainte, il faut encore plus criminaliser, mais en fait, ça ne fonctionne pas. Et on n'a pas la moindre preuve que de mettre des hommes en prison empêche d'autres hommes de commettre ces crimes-là. On n'a pas la moindre preuve, et on a même plutôt des preuves du contraire, que les hommes qui sont criminalisés, c'est pas des hommes qui ne recommettront plus de crimes, donc la prévention, elle est quand même... et à quel coût, en fait? Et puis, qui est criminalisé? Les hommes issus des milieux populaires, et les hommes issus de l'histoire de l'immigration et de la colonisation. Donc on est notre vie, elle est extrêmement violente, le système est extrêmement criminel, il est cruel, et ce qu'on nous propose, c'est de toujours utiliser davantage ce système qui ne fonctionne pas, ce système qui ne nous protège pas, ou en tout cas qui protège que certaines personnes. Et du coup, comme diraient les jeunes, la barre, elle est basse. C'est une expression que disent les jeunes ici en Belgique.
La barre, elle est basse.
Non, ok, bon. Ou alors, c'est une expression de boomer qui croit qu'ils sont jeunes quand ils disent ça. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que nous, les abolitionnistes, en gros, on nous demande toujours, et c'est pas une critique hein, de votre question, hein, mais on nous demande toujours de prouver qu'on serait plus efficace. Plus efficace que ça. Mais en fait, c'est facile hein, d'être plus efficace que ça. Voilà. Et donc, plus efficace pour... Alors après, en plus, c'est... Quel type d'efficacité ? Est-ce qu'il s'agit de réduire le crime, de répondre aux besoins des victimes, de réhabiliter, entre guillemets, les personnes qui sont auteurs de préjudices, de torts, etc. Donc il y a déjà beaucoup de choses sur lesquelles il faudrait se mettre d'accord. Hein, sur c'est quoi nos critères, en fait ? C'est quoi nos critères d'efficacité ? Ensuite, ce qui est... Vous évoquiez la peur que suscite le mot même d'abolitionnisme chez beaucoup de gens. Et il faut prendre ça au sérieux. Hein. Évidemment, on part de là, on part de ce que ressentent les gens. Mais en fait, ce qui est intéressant quand même de rappeler, c'est que la plupart des préjudices, des choses qui vous font tort dans votre vie, vous les réglez sans avoir affaire au système pénal. En tout cas, je l'espère pour vous, parce que sinon, vous avez une vie qui doit être quand même extrêmement compliquée. Hein, si au moindre préjudice, vous appelez la police, vous portez plainte, etc., votre vie doit être extrêmement, extrêmement lourde et pesante. Et en fait, si on réfléchit à toutes les situations voilà, de préjudice, ce qu'on se rend compte, c'est que lorsqu'on tient aux gens, hein, s'il s'agit d'un préjudice commis par un proche, ou à quelqu'un qu'on apprécie, en fait, on fait souvent beaucoup plus d'efforts que s'il s'agit d'une personne inconnue. Je vais être un petit peu dans la caricature, hein, mais si on vous vole votre vélo, que c'est un parfait inconnu, vous allez sans doute être très énervé et vous dire « cette personne, elle mérite d'être punie, elle mérite au moins de me rendre mon vélo et puis peut-être me payer le préjudice moral de cette journée où j'ai raté mon rendez-vous, etc. » Par contre, si c'est votre fils qui vous vole votre vélo, vous allez peut-être être très énervé, mais vous allez aussi essayer de chercher un petit peu plus et puis vous dire « Ah, peut-être qu'il faudrait qu'il parle avec sa tante, elle l'a toujours compris, etc. » Bref, vous allez mettre un peu plus d'efforts parce que vous savez que votre fils, c'est pas juste le petit con qui vous a volé votre vélo, il vous a pourri votre journée. En tout cas, j'espère pour vous. Bon. Du coup, de rappeler qu'en fait, on a des savoir-faire, hein, qu'on peut être imaginatif lorsque les personnes qui nous font du tort sont des proches, ou qu'en tout cas, on a suffisamment d'empathie, de sentiments pour eux, ça évite cette angoisse de la page blanche. Ça permet de dire aussi que l'abolitionnisme, c'est pas partir d'une feuille blanche et de tout réinventer, c'est au contraire partir de savoir que l'on a et d'aller à l'encontre de ce que nous fait croire le système pénal, que le système pénal serait là pour répondre à nos besoins. Et au contraire, de se dire que le système pénal, et ça, il y a beaucoup d'abolitionnistes pour très bien dit, hein, mais que le système pénal, finalement, nous extorque de nos savoirs. Hein, et il y a cette abolitionniste... excusez-moi, c'est le sort des trous de mémoire. Non, qui parle de vol de préjudice.
La question de la réappropriation des conflits.
Nils Christie.
Merci. Nils Christie. Le vol de conflits, hein, qui considère que le système pénal est un voleur. Qui nous exproprie de nos conflits, de nos préjudices. Donc de répondre de cette manière-là, hein, ça permet déjà d'enlever cette angoisse de la page blanche et de se dire que finalement, si on regarde la façon dont la société elle est organisée, au-delà même du système pénal, on touche la question de l'organisation de la société. Hein, et c'est pour ça que la question du capitalisme, elle n'est pas étrangère à la question du système pénal. Ainsi, dans le système capitaliste, il faut travailler. Malheureusement, la plupart d'entre nous devons travailler. Nos vies sont organisées autour de cette obligation-là, qui va faire que bah, on a aussi moins de temps pour plein d'autres choses, hein, et que là où vous pourriez avoir le temps d'aller parler avec vos voisins et puis de vous poser la question de peut-être que cette voisine, quand même, plusieurs fois vous a dit quelque chose et que peut-être ça mériterait une conversation plus approfondie, et puis que ce serait bien de faire un repas parce que bon, peut-être quand même qu'elle est un peu isolée, etc., etc., et puis que peut-être au fur et à mesure des discussions, etc., ça m'aiderait à se rendre compte qu'il y a une situation peut-être de violence, etc. Bah, là, on vous propose un numéro vert et puis l'affaire, elle est réglée. Mais en même temps, c'est normal, hein, parce que on délègue parce qu'on n'a pas ce temps-là. Et c'est, on en revient à la question de la limite des alternatives, hein, de la justice transformative, ça dépend comment on le dit. Je me permets cette parenthèse-là parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. C'est normal, en fait, que ça ne fonctionne pas. Parce que j'ai souvent des questions comme ça de gens qui me disent « Ah, dans mon collectif ou dans mon habitation ou dans mon groupe, voilà, on a essayé de faire la justice autrement. Puis ça n'a pas marché, on n'est sans doute pas assez formé, faudrait qu'on fasse mieux. » Alors du coup, on me demande des ressources, etc. Moi, je leur dis en général « Bah non, en fait, c'est normal. C'est normal parce que... vous ne pouvez pas tout réinventer, hein. C'est comme le jardin potager là, de bio là, dont on parlait tout à l'heure. En fait, dans un système capitaliste, vous n'avez pas le temps d'avoir cette énergie pour faire de la justice autrement. Donc ça va reposer sur quelques personnes qui ont des ressources à un moment donné, qui vont pouvoir s'y employer, puis qui à un moment donné d'ailleurs vont être très fatiguées, et qui soit vont arrêter, soit vont vouloir se professionnaliser. Et on ne peut pas leur reprocher, hein, mais parce qu'au bout d'un moment, il faut bien payer les factures, etc. Et donc, très naturellement, on arrive à la limite de ces formes d'expérimentation. Et je ne sais plus du tout pourquoi je parle de ça, parce que la question, elle était sur...
Sur la sécurité, du coup, le besoin de sécurité.
Oui, et que...
De glisser la position des victimes aussi là-dedans.
Tu veux...
Non, mais termine sur ça.